Vous allez entendre un reportage territoire sur Radio Eulenspiegel 91.8.
Bonjour Étienne Scrive.
Bonjour.
Étienne, membre du cercle d'histoire de Cassel, ce cercle par lui-même, il y a très longtemps qu'il a été mis en place.
Ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'avec à l'époque Jacques Butin et Yves Bécard, on avait commencé à travailler sur l'histoire de Cassel. La première chose qu'on avait faite, c'était une exposition sur la vie à Cassel pendant la guerre 14. Et on avait voulu la faire même avant 2014, puisqu'on savait que le sujet allait être fortement exploité à ce moment-là. Donc on avait fait ça en 2013. Donc voilà, donc 2013, on est en 2026, donc il y a plus de 13 ans qu'on existe. Même si on n'était pas structuré comme club, au départ on était filiale des Amicales Laïques par le biais d'Yves Bécard, et ce n'est qu'après qu'on s'est structuré en association.
Alors ce qui est formidable au cercle, c'est que vous avez une présidente, et ça c'est une belle chose, une dame qu'on apprécie beaucoup, qui s'appelle Sylviane Derime.
Oui, Sylviane, quand Yves et Jacques ont quitté le cercle d'histoire, qu'il a fallu remettre en place une structure plus fonctionnelle, j'avais sollicité que ce soit un Cassellois ou une Casselloise qui en soit président. Et effectivement, Sylviane a pris la présidence, a accepté ce poste et fait ça très bien. Elle est charmante, je ne veux pas dire qu'elle est experte en histoire, elle est experte sur la partie récente, elle est collectionneuse de cartes postales, et donc elle a pas mal d'iconographie, et puis elle connaît Cassel de par sa mémoire, pour y avoir toujours vécu, voilà.
Le cercle d'histoire local de Cassel a mené des projets avec un autre cercle qui se trouve à proximité, on va dire, puisque c'est Bailleul et c'est pas si loin.
Oui, on a travaillé avec le club de Bailleul sur le projet Bridging Over the Sea, qui était un projet mené par les archéos de plusieurs pays, les Pays-Bas, Belgique, France, Angleterre, sur la période, sur la présence romaine ici, sur toute cette région, au premier siècle, puisque la présence romaine, c'est au moins 70 jusqu'à environ les années 300. Donc, il y avait eu un projet de monter un projet Interreg, donc pour rechercher tout ce qui était trace de l'activité romaine à cette époque-là, auquel, avec le cercle d'histoire de Bailleul, qui est plus compétent que nous en matière d'archéologie, on a contribué.
Ce projet vous a amené à, en quelque sorte, vous balader sur Cassel, d'ouvrir grand les yeux et parfois de tomber sur des choses assez extraordinaires. Il y a d'ailleurs un exemple dans la chronique casselloise.
Oui, du coup, donc on a fait ce qu'on appelle nous de la prospection, c'est-à-dire qu'on se regroupe, c'est régulièrement le samedi matin qu'on fait ça, parce qu'il y a encore chez nous des gens qui ont de l'activité professionnelle. Et puis on essaye de passer au peigne fin, de parcourir un champ ou deux comme ça le samedi et voir tout ce qui y traîne, ce qu'on appelle nous des artefacts, c'est-à-dire tous des objets qui ont été travaillés par l'homme. Ça peut être des déchets de taille de l'époque paléolithique, la préhistoire, jusqu'à de la poterie du 17e qu'on retrouve. Et donc on cherche tout ça. Et on ramasse tout ça de temps en temps, voilà, on se promène dans les champs.
Alors il a précisé qu'il y a des procédures pour faire ça. Lorsque vous vous rendez sur une propriété, sur un champ, vous contactez l'agriculteur, vous ne creusez pas, vous n'avez pas de détecteur de métaux.
Voilà, il y a une procédure déjà, là, globalement ce projet avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Et ensuite, effectivement, on essaye tant que possible d'aller contacter le paysan qui exploite le champ, l'agriculteur qui exploite le champ avant d'y aller. C'est pas toujours facile parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs entre eux font un turnover et celui qui occupe le champ cette année n'est pas forcément le même qui l'occupera l'année prochaine. Et donc, on doit quelquefois jongler, on se trompe quelquefois de champs, mais bon, dans la mesure, dans la majorité des cas, on a l'accord du fermier qui l'exploite. De toute façon, on ne va que sur des champs qui ne sont pas ensemencés, qui ne sont pas cultivés pendant la période où la terre est nue. Et je suis fils d'agriculteur, je sais quand même où je mets les pieds. Mais ça, avec les agriculteurs, ça s'est toujours bien passé.
On sait qu'il y a des endroits à Cassel où il y a une présence, je ne vais pas dire intense, mais plus prédominante de l'époque romaine.
Il y a de la vie à Cassel, des traces de présence à Cassel depuis, je ne vais pas dire depuis que l'homme existe. On a depuis la pierre taillée de l'époque paléolithique jusqu'à aujourd'hui, on a une présence constante de l'homme. Et Cassel a bon, est le dernier des sommets d'une chaîne de collines qui va depuis ici, le Mont Kemmel, on va même au-delà. Mont Kemmel, Mont Noir, Mont Rouge, Mont des Cats, Mont des Récollets, Cassel. Cassel, c'est le seul de ces monts à avoir un habitat à son sommet, une ville ancienne à son sommet. Pourquoi? Parce que Cassel, assez vite, Cassel, sous la couche de sable, il y a une couche d'argile qui retient l'eau. Et quand l'homme a commencé à se sédentariser, qu'est-ce qu'il a cherché?
L'eau.
Il a cherché un endroit facile à protéger où il y avait de l'eau. Sur la terrasse du château, on met une palissade tout autour, on est protégé, et en dessous, il y a de l'eau. Donc Cassel a toujours été, depuis que l'homme est fixé, Cassel a été habité.
On m'a précisé un jour, justement, je voudrais avoir ton avis là-dessus, qu'avant ce qu'on appelle les transgressions dunkerquiennes, Cassel était pratiquement un port. C'est vérité ou c'est une légende?
C'est une légende. Pendant les transgressions dunkerquiennes, bon, la mer a monté de 6-7 mètres par rapport à son niveau actuel. Elle n'a jamais atteint Cassel. On sait que notamment les Vikings, quand ils ont envahi la région, ils auraient remonté l'Isère et la. Il serait venu en bateau jusqu'à Wilder. On sait qu'à l'époque romaine aussi, on sait qu'il y avait des bateaux qui venaient charger des tuiles, puisqu'il y avait des tuileries à Aringues, à la limite de Houtkerque et d'Aringues sur la Hébecque. Les fleuves, ces rivières étaient beaucoup plus larges qu'elles ne sont aujourd'hui, et avec des bateaux à fond relativement plat, on naviguait assez loin dans les terres. Mais quand même pas jusqu'à Cassel.
Un peu ce qui s'est passé sur Hans Scott, où avant il y avait un trafic fluvial qui transportait des betteraves, des toutes sortes de choses.
Ah oui, bien sûr, mais ici à Cassel, on était quand même loin de là.
Cassel par lui-même recèle de trésors, et quand je parle de trésors, je pense précisément au cimetière. Il y a une mine de renseignements dans les cimetières. On peut apprendre toute son histoire.
Ah déjà, la lecture des tombes nous emmène sur beaucoup de gens du passé qui ont laissé des traces. Hein. Les belles tombes qu'on a au cimetière, si on refait l'histoire de chacun de ses occupants, c'est déjà une mine en soi. Après ça, il y a l'histoire des cimetières, puisque à Cassel, aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul cimetière, mais il y a eu un cimetière autour de l'église Notre-Dame. Il y a eu un cimetière autour de l'église Saint-Nicolas à l'époque où elle existait. Les chanoines de Saint-Pierre avaient leur propre cimetière. Il y avait un cimetière au Mont des Récollets avec les Récollets quand ils sont installés. Voilà, donc des cimetières, il y en a plusieurs et il y a des anecdotes à raconter sur chacun d'eux. Par exemple, le cimetière de Saint-Pierre. Des chanoines de Saint-Pierre, ils se trouvent derrière le mur. Quand on prend le passage du château, pas la rue du château, mais le petit passage qui continue pour rattraper plus loin. Donc on passe en contrebas aujourd'hui du plateau. Et le mur qui fait s'est un jour effondré pendant la Révolution. Et les ossements des chanoines de Saint-Pierre se retrouvaient étalés dans le chemin.
Curieux. Le cercle d'histoire par lui-même, il organise aussi des sortes de visites guidées,
Alors,
souvent l'été.
voilà, depuis pas mal d'années maintenant, on a pris l'habitude, On tient toujours nos réunions le lundi, et donc pendant l'été, on fait des promenades du lundi, ce qu'on appelle les lundis chics, les lundis du cercle d'histoire, où on part se promener sur une thématique. On se dit, tiens, aujourd'hui, on va parler de tel sujet ou de telle rue, etc. Et on se promène comme ça pendant une paire d'heures à expliquer à tout un chacun ce que l'on sait, ce que les uns et les autres ont pu collecter sur le sujet qu'on aborde.
C'est un des membres du cercle qui prépare ses visites, qui prépare ses balades.
Il y a toujours effectivement un pilote qui prépare ça et qui s'est appuyé sur l'ensemble des membres, hein, de toute façon.
Vous éditez quelque chose que je trouve formidable de par sa qualité, de par sa recherche, de par les photos, ces chroniques caselloises.
Oui, ça fait maintenant, on a sorti le deuxième numéro, on a effectivement pris plaisir, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on collecte comme information? Il serait bien de le rendre accessible au public. Et donc, on a décidé de régulièrement, quand on a la matière, on ne s'est pas mis le couteau sous l'épée sur la tête ou le couteau sous la gorge en disant, il faut qu'à tout prix qu'on sorte quelque chose dans 3 mois parce que. Non, on dit quand on a matière suffisante à sortir un numéro, on le sort. On a réussi effectivement à en sortir un en mars 2025 et un autre en mars 2026. Est-ce qu'on sera prêt à en faire un pour mars 2027? On espère, mais on ne se met pas
D'obligation.
d'obligation. Voilà.
Dans et au cercle, pour mieux dire, il y a des gens qui ont des spécialités. Et je vais nommer précisément Chris Lefebvre, qui lui a été un passionné du premier conflit mondial, de la deuxième guerre mondiale. Et il y a eu un moment très fort où vous êtes associés. Ça a été l'hommage à Maurice Goris et Paul Hugot de par ces pavés de la mémoire qui ont été apposés rue Monclé et rue Bollard.
Oui, effectivement, Christophe, c'est notre spécialiste, surtout sur les 2 derniers conflits qui ont eu lieu à Cassel, et surtout sur la Deuxième Guerre. Il est passionné par le sujet, ça fait des années qu'il collecte tout ce qui existe là-dessus, qui correspond avec beaucoup de gens passionnés comme lui sur ça, et c'est une mine dans la matière. Et effectivement, quand il a fallu rendre hommage à 2 résistants. On avait déjà rendu un hommage à Maurice Goris en baptisant l'escalier de long de la mairie Passage Maurice Goris il y a quelques années. Et ici, les pavés de la mémoire, c'est une association qui veut imposer devant les domiciles des différents résistants un peu partout en Europe, puisqu'il y en a autant en Allemagne même qui ont résisté qu'en France et dans d'autres pays. Et donc, il y a eu 2 pavés de poser à Cassel. Et là, le collège s'est associé au sujet, puisqu'il y a une classe du collège qui a travaillé sur l'histoire de ces 2 résistants et qui a participé donc
Activement, on va dire.
activement à leur commémoration. Oui.
On va rappeler que c'est l'association Stolperstein qui est à même d'avoir organisé ça dès le début. Aujourd'hui, j'espère qu'on a mis l'eau à la bouche à nos auditeurs. Vous recherchez des membres, la porte est grande ouverte, il y a peut-être une pépite que vous recherchez?
On cherche toujours tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de Cassel, intéressés, sont bienvenus chez nous, il n'y a pas de souci. On a des gens spécialisés dans toutes les périodes un peu chez nous, hein. On parlait de Christophe qui est spécialisé sur les conflits mondiaux et la Deuxième Guerre. On a René Charlet qui est spécialisé sur tout ce qui touche à la vie religieuse qu'il y a pu y avoir à Cassel. On a Dominique Seret qui s'intéresse à tout ce
Période
qui est
napoléonienne.
révolution et empire. Voilà, on a des spécialistes. Moi-même, je m'intéresse surtout à l'administration dans les villes flamandes sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire comment ça se passait avant la Révolution, avant 1700, avant 1800, comment étaient gérées les communes, etc. Voilà, et donc si des gens sont intéressés, ils peuvent toujours prendre contact avec Sylviane, qui se fera un plaisir de relayer leur candidature.
En sachant que le siège est à la mairie de Cassel.
Le siège est à la mairie de Cassel et la présidente est Rumon Clé. Il y a toujours un bulletin des chroniques casselloises affiché à sa fenêtre, donc les gens savent la repérer.
Facile à trouver. On ne va pas se quitter sans avoir une pensée émue quand même pour Yves Becker qui nous a quittés au mois de janvier.
Pour Yves et pour Jacques, moi je les associe, hein, Jacques Butin et Yves Becker, qui ont été les deux initiateurs de cette association et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, à les accompagner aux archives, que ce soit, j'allais surtout avec eux aux archives de l'Indicateur à Hazebrouck. Et avec Jacques, je l'ai rencontré assez souvent aux archives départementales à Lille également.
Et tiens, un grand merci pour cette belle rencontre, pour ce beau discours, on va dire, historique.
Merci beaucoup. Et puis à tous ceux qui sont intéressés par l'histoire de Cassel, ben, on les attend déjà au premier rendez-vous du lundi. Donc ici, au mois de juillet, ça sera les 6, 20, 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août. Le rendez-vous, c'est toujours à 17h devant la mairie de Cassel, sauf le 3 août où ça sera devant l'église de Terre de Guem, et le 24 août où ce sera au blocos du Pekel.
Voilà. Et de toute façon, on peut aussi consulter votre page Facebook, Cercle d'Histoire de Cassel, il y aura toutes les infos dessus.
Tout
merci.
À fait.
Merci Étienne.
De rien.